Je pourrais intituler ce message « Le bonheur par la sagesse de Dieu ». Alors en fait, ce message s'est construit sur une chaîne de références issues de la Bible à parallèle, alors que je lisais dans le psaume 119, il y a deux semaines de cela. Et le verset, ça a démarré à partir du verset 72. Et là, du verset 72, j'ai été dirigé par les parallèles vers d'autres passages qui se complètent, qui nous confirment dans la parole donnée dans ce verset. Et cette parole, donc, elle est très simple. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Très simple. 1000 objets d'or et d'argent, ce n'est pas rien. Mais mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons, j'espère, tous ensemble ainsi au Seigneur. Nous pourrions le dire ensemble. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. De là, nous sommes dirigés vers les Proverbes au chapitre 3. Ces paroles adressées au fils ou à la fille. Les versets 13 à 15. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On peut y ajouter le verset 16, « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. » La sagesse, l'intelligence. Nous pouvons avoir trouvé la sagesse et posséder l'intelligence. Ça ne nous est pas naturel. Mais cela nous est donné. Nous pouvons l'avoir trouvé. Et si nous l'avons trouvé, nous la possédons. Celui qui trouve un trésor en devient le propriétaire et il jouit de ce trésor. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Je sais que beaucoup de personnes font des placements d'or en ce moment parce qu'ils espèrent en tirer du profit à cause de sa valeur qui va augmenter. Bon, ça peut aussi descendre dans le contexte de la bourse et tout ça. Ce n'est pas garanti, mais l'idée est quand même là, de tirer profit de cette valeur or. Eh bien, nous voulons tirer profit de la valeur sagesse, la valeur intelligence que Dieu nous confie. Alors, cette parole est adressée en particulier au jeune homme, à la jeune fille, qui, aujourd'hui comme hier, peuvent être conduits par les valeurs suprêmes et de fidèles adultes peuvent leur être en exemple. La jeunesse n'est pas finie, n'est pas condamnée. On parle beaucoup de toutes les dérives, tout ce qui ne va pas dans la jeunesse, mais il y a toujours possibilité pour elle de se conduire selon la parole de Dieu, selon la sagesse et selon l'intelligence divine. Les jeunes, ne vous laissez pas perdre dans l'idée que il n'y a plus rien de possible dans ce monde, il n'y a plus de conduite, bonne conduite possible, que tout le monde marche mal et que donc il faut aussi que vous marchiez mal. Non. Il est tout à fait possible, quand on a trouvé et qu'on a été instruit de la parole de Dieu, de marcher dans la sagesse et avec intelligence. Alors regardez l'avenir justement de ces jeunes gens, ces jeunes filles qui marchent dans la sagesse et l'intelligence. Il est décrit à la suite de ces versets. Donc dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Un peu plus loin, verset 21, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Le secret de cette réussite, c'est qu'en gardant la sagesse, en réalité, la sagesse divine, nous puisons dans la force créatrice, la force qui est à l'origine du monde. J'ai sauté les versets 19 et 20 que je lis maintenant. « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. » Encore maintenant, par la sagesse divine. Le psaume 19, que nous avons lu tout à l'heure, commence par l'aspect de la grandeur de Dieu dans la création et ensuite sa parole. Il ne s'agit pas de tout comprendre du fonctionnement de l'univers, de ses lois, etc. Petit à petit, les scientifiques les découvrent. Mais il s'agit de se fier pour notre conduite à la parole du Dieu créateur, qui seul est sage. L'apôtre Paul le dira dans ses épîtres, et je veux quand même donner quelques références des épîtres de Paul, l'épître aux Romains, chapitre 16, verset 27. C'est ainsi que conclut tout simplement l'apôtre, qu'il conclut l'épître. « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. » N'essayez pas de trouver une sagesse ailleurs qu'en Dieu. Il est le seul sage. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis au chapitre 6, verset 16, 15 et 16. Celui que manifestera Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est de lui que viennent la sagesse et l'intelligence. C'est lui qui nous a donné une parole éprouvée pour qu'elle soit notre trésor. Dans la chaîne de référence nous conduit aussi à Job, au chapitre 28, versets 12 à 23. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence ? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent « Nous en avons entendu parler ». C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Nous revenons au proverbe, où nous retrouvons cette sagesse qui a présidé à la création, au chapitre 8. En fait, c'est tout le chapitre 8 des Proverbes, mais nous prendrons les versets 6 à 11. Que dit-elle, cette sagesse ? Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et droite pour ceux qui ont trouvé la sagesse. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et puis, au verset 17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Instruction divine, science divine, sagesse divine, ça dévalorise l'or et l'argent ou les perles. Mais à la fin, il y a des biens et des trésors. Celui qui ne cherche pas les trésors, qui cherche la sagesse de Dieu, trouve cette sagesse. Et à la fin, il reçoit aussi les trésors. Le grand exemple, c'est le roi Salomon, au début de son règne. « Que me demandes-tu ? » dit le Seigneur. « Donne-moi de la sagesse pour diriger ce peuple. Puisque tu m'as demandé de la sagesse, tu auras de la sagesse, plus qu'aucun autre homme. » Et en plus, je te donnerai les biens, les richesses et les trésors. En plus, cadeau du Seigneur, parce que la recherche première est celle de la sagesse. Alors, les adolescents en particulier, qui sont au début de leur vie, les instructions, l'intelligence, la science, la sagesse de Dieu, que ça soit votre recherche, votre désir, que ce soit l'appel de vos cœurs, et tout le reste, ça vous sera donné. Allons encore au Proverbe 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. On insiste, la parole insiste. Pour bien comprendre la nature de l'intelligence en question, eh bien, il faut recevoir le verset suivant. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Éviter le mal. C'est à cela que nous conduit la sagesse de Dieu. Parce que le mal et les assauts de la mort, voilà ce qui nous guette. Le mal est une force active dans le monde. Il nous atteint par toutes sortes de biais. Il a toutes sortes de chemins pour arriver jusqu'à nous et nous faire tomber. Dieu aurait pu nous laisser à notre folie, mais il nous a proposé sa sagesse. Le verset 22 de ce proverbe 16. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Il est dit dans l'Épître aux Romains, que chapitre 1, la description de l'humanité, c'est que ne se sentant pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. On peut dire qu'il les a abandonnés à eux-mêmes. Et si Dieu abandonne les hommes à eux-mêmes, c'est la folie. C'est le dérèglement. C'est la perte. Mais Dieu n'a pas voulu ce chemin. En tout cas pour ceux qu'il veut amener dans sa gloire. Alors, allons à l'enseignement du Seigneur pour être délivré de la puissance de la mort, pour être délivré du mal. Nous revenons un peu plus loin, un peu plus tôt dans les Proverbes, chapitre 13, verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La parole et les paroles du vrai sage, parce qu'il y a les sages selon ce monde, il y a vraiment les sages selon Dieu. Eh bien, les sages selon Dieu, leurs paroles sont associées à la crainte de Dieu, à son profond respect. C'est pourquoi on a un proverbe très semblable au chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Les pièges. Combien de pièges sont tendus devant nous? La mort nous tend des pièges. Ils sont nombreux. Et c'est la crainte du Seigneur et l'amour de ses commandements qui nous en délivrent. la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire la recherche et l'obéissance à ses commandements. Voilà notre délivrance, comme le dit Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Revenons au psaume. En fait, dans ces sujets, on voyage entre psaume, proverbe, Job et des paroles qui sont semblables. C'est pas pour rien qu'on les appelle les livres de sagesse qui sont au cœur de l'Écriture. Psaume 34, versets 10 à 16. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les fils et les filles de Dieu ici sont appelés d'abord des saints. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Et puis ensuite, ils sont appelés aussi justes. L'enseignement leur est donné pour leur bien et pour celui de leur prochain, car si nous faisons du bien, c'est pour que le prochain en tire profit. Nous recevons du bien du Seigneur et nous faisons du bien autour de nous. Est-ce que vous vous apprêtez à cela? Alors il est temps de revenir au psaume 19 avec ses affirmations et l'engagement qui en découle, que je vous ai lu en introduction, mais je partirai de la moitié, deuxième moitié du psaume, là, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. On aime à dire dans les assemblées évangéliques qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés, que tous les péchés nous condamnent aux yeux de Dieu. Mais sur le plan humain, il y a quand même une différence. Et le psalmiste peut dire, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Il y a quand même des péchés qui marquent nos vies jusqu'à vraiment la corruption, la destruction, alors que effectivement il y a d'autres péchés qui sont là à l'œuvre dans nos vies, mais qui ont un aspect plus limité. et que nous pouvons abandonner quand même plus facilement au Seigneur. Tandis que certains grands péchés vraiment dominent sur nous et il est très difficile de s'en séparer, de les rejeter. Alors ne nous laissons pas, par la grâce justement, de connaître les commandements du Seigneur, sa loi parfaite, ne nous laissons pas entraîner dans des péchés qui prendraient toute la place dans notre vie. Donc voilà la bonne, la saine, la juste attitude. Pardonne-moi les péchés que j'ignore. Préserve-moi des orgueilleux. Reçois surtout favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, Seigneur. Plaçons-nous ce matin devant Dieu avec des paroles dans nos bouches et des sentiments dans nos cœurs qui lui soient agréables, qui puissent être agréés du Seigneur, mon rocher et mon Rédempteur, celui qui me rachète justement de toutes mes forces, de toutes mes fautes et sur lequel je peux m'appuyer, me fonder pour bâtir ma vie. Que le Seigneur nous trouve dans ses dispositions de cœur et d'esprit ce matin. Comprenons bien, frères et sœurs, que Dieu veut nous conduire dans son monde à lui, ou nous ramener dans son monde à lui. Notre monde, le monde d'ici-bas, reste hostile et séparé de Dieu. Il gît sous la puissance du malin. Il a développé une sagesse qui ne le conduit pas à Dieu, qui ne lui donne pas la vie. L'apôtre Paul développe cela dans le premier et second chapitre de l'Épître aux Corinthiens. Alors le Seigneur nous a préparé son lieu à lui, sa Sion, qui va un jour descendre du ciel d'auprès de lui, comme nous le lisons dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 2, « Je vis descendre du ciel Jérusalem, la ville sainte, d'auprès de Dieu. » Et il en est déjà question dans les prophètes. D'ailleurs, en fait, pour nous instruire de cette Sion dans laquelle seule réside la gloire et la sagesse de Dieu, le Seigneur a procédé par analogie en désignant un lieu terrestre, Jérusalem, Sion, de sorte que les prophètes puissent disposer nos cœurs à rechercher la sainte présence. Ésaïe peut dire dans son chapitre 33, prophète de la bonne nouvelle, Ésaïe, l'évangile avant la lettre, surtout la deuxième partie. Si je lis au chapitre 33, les versets 5 et 6, « L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. » À Sion, dans la Sion véritable, là où Dieu se révèle, là où Dieu s'installe, il n'y a que de la vérité, il n'y a que de la justice. Et il y a de la sûreté, droiture, justice. Parce qu'en Dieu, qui est en haut, Il habite en haut. Il est élevé, il habite en haut. Il n'habite pas dans les troubles d'ici-bas. Il est dans sa sainteté, sa pureté éternelle. Eh bien, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il choisit un lieu sur la terre, c'est pour y placer sa justice, c'est pour y placer sa vérité. C'est que pour que le mal disparaisse totalement. Jacques le dira, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute bonté, toute justice, toute lumière nous viennent d'en haut du Père qui a tout créé par sa sagesse et qui veut nous y conduire et l'installer, installer son royaume. Donc à Sion qui est en haut, nos jours sont en sûreté, car son trésor, c'est la crainte de l'Éternel. Le roi de Sion apparu sur la terre. C'est cela l'Évangile, c'est ce que nous apportons de semaine en semaine, c'est ce que les apôtres ont prêché après que le Seigneur Jésus soit venu, c'est ce qu'ils ont laissé dans les Évangiles. Le roi de Sion apparu sur la terre, le roi de paix, le roi de justice, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Il nous assure de la providence divine et il nous demande, lui aussi, expressément, de nous amasser des trésors dans le ciel. Ne pas nous amasser des trésors sur la terre, mais nous amasser des trésors dans le ciel. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il conclut cette partie du discours avec cette phrase qui a été citée tout à l'heure dans la prière, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Et toutes ces choses, les choses du quotidien, les choses de ce monde, de la vie courante, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous recevrez toutes choses. Si vous connaissez le roi de Sion, le sauveur de vos âmes, si vous écoutez ses instructions, si vous retenez sa parole, vous marcherez dans la sagesse avec intelligence, délivré des pièges que la mort tend devant vous. C'est là votre programme, le programme des enfants de Dieu, le programme des jeunes, des adultes, des aînés. Toujours marcher dans la sagesse et l'intelligence du Seigneur qui dépasse et de loin tout ce qui peut briller au sein de ce monde, de cette société, tout ce qui pourrait attirer nos cœurs. On est très facilement attiré par ce qui brille, par ce qui est beau aux yeux, et ce n'est pas contradictoire avec les promesses du Seigneur, s'il y a la primauté à la recherche de la loi du Seigneur. Nous pouvons ne rien posséder, mais si nous possédons la foi et la parole de Jésus, Nous avons tout. Et puis le Seigneur, quand même, connaît nos besoins et il donnera à chacun selon sa grâce pour que nous soyons heureux sur cette terre. Et les jeunes en particulier, je vous le dis, vous serez heureux, satisfaits, réjouis en toutes choses si vous aimez le Seigneur et ses commandements. Amen.